probablement la psychiatrie. Bon, mais il semble que si vous suivez avec assiduité ces conférences, alors vous ne supporterez plus jamais de continuer inlassablement à devoir lacer vos chaussures. Hein? D'accord. Vapro, il préfère les enfiler. Elle ajoute, mais je ne veux rien savoir de tout ça. Tous les coincés que je connais là, qui ont un psy, disent la même chose. C'est une expression new-yorkaise. C'est quelqu'un qui en analyse, on dit, he had a string. Hein, il a un coincé qui a un analyse. Tous les essorés de la psychanalyse disent la même chose et m'écartent et m'effraient d'un. Alors j'évite en général d'aborder la question. Vous voyez, elle dit très bien. Topologie en extension, va pour la topologie, silence. Les deux, c'est bon pour moi malgré tout. C'est charmant, vous ne pouvez pas. Ça dit exactement la situation. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une certaine acuité. Bon. Et donc, la question, elle est que il faut pas confondre le fait de dessiner des objets et le fait de les définir, de les concevoir. La dimension, c'est un truc extrêmement intéressant parce que c'est du vide, c'est rien, mais c'est justement ça. Et là, quand il dit la droite infinie, c'est un trou réel parce que on est autour, on est dedans. Et alors, moi je vous propose à la lecture du séminaire Le Symptôme d'ajouter une quatrième structure freudienne du symptôme, hein, que j'appelle psychanalyse. Et c'est le nœud de Lacan. C'est le nœud que Lacan désigne comme ça, c'est le nœud de Lacan, comme ça, c'est le nœud Freud. Le nœud Freud, et ça, c'est le nœud de Lacan. Bon. Voilà. Et je vous fais remarquer que du côté de la psychose et de la psychanalyse, c'est des nœuds propres. Là, c'est des chaînes, là, c'est des nœuds propres. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a des enlacements dans ces chaînes qui vont produire des nœuds propres? Eh bien non, justement, c'est ces structures qui sont liées à la perversion dans ce tableau, et pas du tout la névrose. L'opposition, je vous dis, je la maintiens, l'opposition, elle est entre non-nœuds et nœuds triviaux et nœuds. Donc, il y a cette première opposition qui fait que névrose, hein, l'enlacement, ne va pas jouer le même rôle. Il y a une opposition entre nœuds et non-nœuds qui reste entre chaîne triviale et enlacement et chaîne nœud, qui reste structurellement pertinente et fondamentale. Et c'est donc avec ces chaînes-là, pas avec celle-ci, de l'enlacement, que nous allons faire la théorie des nœuds propres. Bon, ça c'est un premier point. Alors c'est important d'y réfléchir, vous pouvez mâcher ça, essayer d'y réfléchir de diverses manières, mais bon, la formule de Lacan dans RSI, quand il présente cette différence entre chaînes qui ne seraient pas des nœuds, et il dit le nœud borroméen c'est une non-chaîne. Il pousse encore le bouchon un peu plus loin dans sa façon de nommer les choses. Il dit c'est une non-chaîne, ça, le nœud borroméen. Donc il garde chaîne et non-chaîne. Et puis plus loin, dans le séminaire, plus tard, il introduira chaîne-nœud. Chaîne-nœud, il introduit même après le symptôme. Je crois qu'il l'introduit dans l'insuccès de l'une des vues, c'est l'amour. Hein. Bon. Alors, mâcher cette histoire de enlacement nœud. C'est-à-dire que la formule de Lacan est assez jolie. Il dit dans l'enlacement, donc chaque rond emprunte le trou d'un autre rond. Alors que dans le nœud borroméen, aucun rond n'emprunte le trou d'un autre rond. On pourrait dire que c'est la formule du rapport ou du non-rapport. C'est ça qui va être difficile à démêler. Parce que dans le symptôme, hein, c'est difficile de dire voyez, j'ai même je vous dis, l'endroit où les choses se corsent, c'est dans la troisième leçon du symptôme. Hein. C'est dans la leçon numéro 3 du 16 décembre 75. Quand Lacan distingue très très bien le nœud trèfle comme psychose paranoïaque. En tant qu'un sujet, nous à trois, l'imaginaire, le symbolique et le réel, il n'est supporté que de leur continuité. L'imaginaire, le symbolique et le réel sont une seule et même consistance. Et c'est en cela que consiste la psychose paranoïaque. Dans le nœud trèfle, vous obtenez le nœud trèfle en faisant une mise en continuité dans une chaîne nœud borroméenne. Vous voyez, si vous avez dans mon tableau, quand vous avez un objet comme le nœud trèfle, par exemple comme ça, bien, il vient ici du nœud borroméen par des mises en continuité. Là, il y a trois ronds, là, il n'y en a qu'un. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, d'un côté? Comment on passe d'un côté de cette feuille? Comment on passe de là à là, ou de là à là? Hein? Pour passer de la chaîne au nœud, on fait des sections transverses dans la surface d'un pan. Alors, il faut définir la surface d'un pan, son orientation, son coloriage, parce que les mises en continuité, elles respectent ces qualités de coloriage que j'ai définies dans le nœud. On ne doit pas traverser par les sections transverses. Justement, j'ai insisté sur le mot transverse parce qu'on ne doit pas traverser la grande coupure, la grande différence, la grande répétition. Parce que, vous voyez, ce que j'appelle la grande coupure, la grande répétition, c'est ce qui me fait dire que le nœud, c'est l'accomplissement d'une coupure dans le bouquin. Comme le rêve est l'accomplissement d'un désir. Eh bien, cette coupure, cette grande coupure, il ne faut pas la traverser. Il faut faire des sections transverses qui se produisent dans des endroits où ne passe pas la coupure, dans la partie non nœud. Alors voilà, je vous dessine un des coloriages possibles du borroméen. L'intérêt du borroméen, c'est que tous les coloriages vont donner le même résultat, le nœud trèfle. Si vous mettez la coupure autour ici de ce trou, vous voyez, vous pouvez faire les mises en continuité ici, dans cette zone. La zone en question, je vais la peindre en rouge. Voilà. S'il y a du rouge ici, vous voyez, là, il n'y a pas de coupure qui passe là-dedans, dans la surface. La coupure, elle passe ici, elle passe là. Pour ça, il faut étudier ça dans le bouquin 2, cette manière de colorer. Et de trouver, il y a un algorithme, il y a un procédé pour trouver la coupure. Bon, l'autre partie de la surface, c'est vert. Parce que j'utilise rouge et vert pour réorienter la surface. Cette coupure, ce coloriage, il est indicatif de la manière de composer. Vous voyez, comment donc couper là-dedans, dans la partie rouge, ici. Ça, c'est qu'il faut faire des choses comme ça. Le trèfle, on va le trouver. Le trèfle, on va le trouver très facilement. Vous voyez ici, je fais des sections transverses. Je coupe. Alors ici, ce truc-là va jusque-là, il vient jusqu'ici. Voilà, il vient jusqu'ici. Et celui-là qui vient ici, il est coupé par la section transverse. Voilà. Vous voyez, je fais la section transverse, mais je vais vous mettre un petit bout de grave de terre absente. Je fais la section transverse grâce à ce graphe, pour vous dire où elle est faite. Il y a deux coupures. Ça, on a l'impression que c'est un truc à trois branches, mais c'est deux coupures. Vous voyez pourquoi c'est deux et pas trois? Ça, c'est très intéressant parce que c'est un truc illusoire de croire que c'est du 3. Alors que c'est du 2. Vous voyez, ce dessin-là, c'est du 2. Ça ressemble à quelque chose, à un Y, à une branche d'arbre, une fourche. Hein? Pourquoi ça, c'est 2 mises en continuité et pas 3? Regardez bien. Si vous avez cette zone comme ça, Il y avait une zone comme celle-ci. Hein. Vous voyez la zone là. Regardez. Si je fais une mise en continuité ici, voilà, pof, pof. Tout le monde voit, mais dans une zone, je fais une mise en continuité. Je fais une... S'il y a de la surface, je prends des ciseaux et je coupe. Vous savez, moi je suis très con, hein. Je ne suis pas spécialement positiviste, mais quand il faut définir bien les trucs, il faut quand même trouver un point d'appui. Alors, pof, la surface d'enfant, elle permet de bien définir la section transverse. Mais on peut le définir autrement, grâce au graphe. Grâce au graphe de Pearson. Et si je fais une deuxième coupure ici, pour mettre un rond en continuité avec un autre, et puis mettre le troisième en continuité avec le même, là, donc je fais une deuxième coupure, vous voyez. Ça, c'est bien deux coupures distinctes. Ça, c'est une coupe, ça, c'est une coupe. Ça, c'est pof, pof, deux coups de ciseaux différents. Seulement, regardez, la base de cette coupure ici, cet endroit-là, je peux le faire glisser jusqu'ici. Vous voyez, je peux l'amener jusqu'ici. Qu'est-ce que ça fait? Je fais le dessin, ça, regardez. Vous avez un truc comme ça, et puis là, vous avez quelque chose comme ça. Je vais venir ici amener ma coupure. Cette coupure-là, je la déforme continuellement de manière à ce qu'elle vienne comme ça. Hein, c'est une petite réflexion locale que je fais. Vous voyez? Là où j'ai mis cette espèce d'astérix, ça vient là. Vous voyez? Ça vient ici. Et la coupure, je la déforme. Ça ne change rien au résultat. Les connexions à l'intérieur compte tenu des croisements et des différents fils, ça va toujours être la même mise en continuité. C'est juste une déformation continue. Ça, c'est proprement topologique. Et donc, ce n'est pas plus compliqué que ça, la topologie. C'est ça qui est amusant. C'est pas compliqué du tout. Donc, ici, c'est deux coupures, mais quand on les présente comme ça, on a l'impression qu'on a un truc trinaire. Ce qui fait que vous vous emballez pas à penser que la logique canonique d'Aristote jusqu'à Frege, jusqu'à Boulle, son tort, c'est d'être binaire. Quelque chose de binaire, c'est pas forcément tout à fait binaire. Vous n'hésitez pas à faire de la ségrégation avec le 2, le 3, le 4. Bon, si vous êtes bien obsessionnel, vous pouvez utiliser 3 feuilles ou 4 feuilles pour vous torcher, c'est votre vie. Mais enfin, il n'y a pas de meilleur nombre, les nombres non plus, dans ce corps. Lacan, il passe son temps à faire des calculs sur le petit nombre, sur le doigt d'une main. Enfin, il dit, c'est pas la peine de monter plus loin que 6. Mais c'est pas la mystique des nombres. Non. Bon. Il y a des structures numériques quand même très intéressantes dans ces nombres petits. Et là, vous avez du 2 et du 3 qui se mélangent bizarrement. Donc, moi je pense, quand les gens me demandent est-ce que Lacan était intuitionniste, la réponse c'est non. Ou alors il est tellement fortement intuitionniste, justement c'est ce qui fait que Hetting, qui a fait une logique trivalente, n'a rien compris à l'intuitionnisme de Brouwer. Il y a un monsieur italien qui a écrit beaucoup là-dessus, qui est très sympa, qui a fait des travaux pas mal. Il a parlé du tiers inclus au lieu du tiers exclu. Mais c'est pas si simple. C'est vraiment extrêmement intéressant de voir qu'il faut pas se précipiter à prononcer des dogmes et des didactes, vous voyez. Bon. Alors voilà, pour la section transverse. Si je fais cette section transverse, vous voyez, là, j'obtiens un trèfle. Il me reste le trèfle. Je vous le montre. Le trèfle avec la coupure, c'est la partie qui est coupée ici, la partie qui sera atteinte par la coupure, qui reste. Elle est là. Vous voyez, le trèfle, il est là. Avec les couleurs, tout ça est parfaitement. Et c'est parfaitement constructible étape par étape. Chaque étape est constructible. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le matériau. C'est pour ça que c'est mieux de dessiner, parce qu'on ne sait pas quel est le matériau. Moi, je pense que c'est un matériau textuel. Je pense que c'est textuel. Ça sera fait en dimension 3 dans les ordinateurs par des programmes de plus en plus sophistiqués qui arriveront à créer le lieu. Bon, le lieu physique le plus propre à cette topologie, c'est dans un miroir. C'est de deux personnes de Strasbourg qui ont eu l'idée de mettre des nœuds à la place du bouquet renversé, du bouquet de l'expérience du bouquet renversé de Lacan. Hein? Lacan, dans l'angoisse, il met des surfaces aussi à cet endroit-là. Ben, eux, ils ont l'idée de mettre des nœuds. Et ben, ils se sont aperçus qu'ils trouvaient des lois des mises en continuité. Là. Les sections transverses et les mises en continuité entre nœuds, il les voit fonctionner dans un miroir concave. Donc il y a un modèle optique de cette géométrie, il y a un modèle optique, mais ce modèle, il est local. Et seulement, moi, je n'ai pas eu besoin du modèle optique, j'ai peut-être une imagination débordante. Je ne crois pas, non, je crois que c'est parce que je suis con, j'ai pas spécialement d'imagination, mais c'est une affaire de raisonnement, de tenue dans l'écriture et dans la lecture. C'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est lire, écrire d'une manière cohérente, quelle cohérence ça peut avoir. Alors vous voyez, le nœud 13 qui est là, hein, il est obtenu comme ça, par section transverse. Bon. Alors, est-ce que c'est suffisant comme couleur ou vous voulez en mettre plus? Vous voyez, ici la couleur est bien ici, la couleur verte elle est là, comme dans le premier dessin. Hein? Et puis là, il y a du rouge qui a été coupé, il a été éclaté là. Là, l'endroit non neutre où la cambelle opéra s'est éclaté. Voilà. La psychose paranoïaque, ce serait donc un acting out parce qu'on laisse tomber l'objectita. On jette l'objectita à la poubelle. Est-ce que c'est l'acting out, hein? C'est comme l'acting out de Chris avec la cervelle fraîche, hein? Qu'est-ce que c'est l'acting out? L'acting out, c'est si vous avez une bonne analyse structurale de ce que c'est que la cure, le dispositif de l'analyse, de l'analysant et de l'analyste, vous voyez bien, contrairement donc à Elia Kazan, c'est pas du tout l'acteur n'est pas du tout le pauvre analysant qui se fait diriger par le metteur en scène, le réalisateur de cinéma ou le metteur en scène, le directeur, comme on dit en anglais, qui serait l'analyste, non, pas du tout. Au théâtre, le modèle de l'analyse, c'est l'analysant, c'est l'auteur ou le metteur en scène qui arrive avec le manuscrit sous le bras, il vient faire jouer sa pièce par les acteurs. Et l'analyste, il est acteur. Il doit interpréter. Bon, et qu'est-ce que c'est que l'acting out? L'acting out, c'est quand justement l'analysant, c'est-à-dire le metteur en scène, il trouve que l'acteur, il est mauvais. Il ne joue pas bien. Il ne joue pas bien. Vous voyez, Chris, il dit, je vais vous interpréter votre plagiarisme par la surface. Quand il dit la surface, vous voyez, les surfaces, c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. C'est pas superficiel, la surface. Et bien justement, Chris, il lit tous les livres du mec et il lui rend les livres en lui disant « Mais non, j'ai lu tout volé, vous n'êtes pas un plagiat du tout. » Ça, c'est parce que l'interprétation analytique, elle ne doit pas être vraie. Elle ne doit pas être vraie, elle doit être juste. Le type, il n'en a rien à foutre d'être un plagiat. On se demande s'il est un plagiat, il s'inquiète, il écrit des livres. C'est du plagiarisme. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que le désir le désir de cet auteur, de cet analysant qui a un texte, qui dépend d'un texte, il doit le jouer. Et il demande à l'analyste de lui jouer. D'ailleurs, moi, je pense que l'analyste, il ne doit pas le jouer. Hein. Il doit dire au metteur en scène que si tu veux le jouer, ben, joue-le toi-même. Mais diriger les analysants, c'est être dans la position de l'acteur on joue un peu pour mettre sur la piste. Et si le metteur en scène trouve que l'analysant trouve que l'analyste, c'est-à-dire l'acteur, joue mal, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il monte sur la scène, il prend l'acteur qui est en position d'objet, là, il le jette dans la fosse d'orchestre et il joue à sa place. Il lui dit, écoute, tu es un con, je vais te montrer comment il faut la jouer, et hop, il prend la dulcinée et il lui roule un ballon. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Donc voilà, l'acting out, c'est jeter l'objet A. Quand on n'est pas content de l'objet A, quand on est déçu, c'est pas la même déception que dans le passage à l'acte. Dans le passage à l'acte, c'est le grand hôte qui fait défaut. Si le grand hôte ne tient pas le coup, il tombe, vous voyez, comme pour Lacan qui va mourir pour Souris, ou Mitterrand qui déçoit comment il s'appelait son ministre, hein, Périgord-Roy. Le pauvre Périgord-Roy, il s'était fait un personnage de commandeur et il a été baisé par le journaliste à cause de cette histoire de prêt d'argent d'un ami de Mitterrand. Dès qu'il a pu être en fonction au premier ministre, pof, il se fait. Le grand autre, celui que vous mettez en place de grand autre, c'est pour ça que c'est des risques. Hein. S'il vous déçoit, passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est souvent cette traversée au travers de. Chercher à traverser le fantasme. Ce qui n'est pas du tout la même chose que la fin de l'analyse, où il s'agit de faire que le fantasme se traverse lui-même. Ça, c'est un jeu de mots de Lacan, évidemment. Qui va capter ça? Et Lacan, quand il parle de la traversée du fantasme, c'est le fantasme. Parce que le fantasme, c'est un vide intérieur. Hein. C'est donc un rond qui fait une boucle, et qui se traverse ce rond qui fait cette boucle. Chaque point du rond doit passer au travers d'un autre point du rond. Ça, c'est la traversée du fantasme. Et tandis que dans le passage à l'acte, il est dans la tendance à passer au travers du fantasme, le cadre du savoir. Ce que je vous raconte là, c'est parfaitement du savoir, de l'écriture, c'est-à-dire du fantasme. Bon. Donc voilà, ça c'est la psychose devient l'acting out. C'est pour ça que je vous dis ça, ça résout le problème que vous vous êtes peut-être posé un jour dans votre analyse, si vous vous êtes posé cette question. C'est, je vous dis, avant ce séminaire de Lacan, vous ne pouvez pas réussir à résoudre ce problème. La différence entre le trauma, quoi, le trou réel, et la forclusion, qui est un trou dans le symbolique, mais ce qui est rejeté du symbolique revient dans le réel. Le réel joue un rôle dans les deux, mais il faut absolument distinguer par l'écriture le trauma de la forclusion. Le trauma, c'est la droite infinie, c'est la dimension la plus pure, c'est le malentendu des parents, ils ne s'entendent pas crier. Ils ne se rendent pas compte, l'enfant est déçu, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une fonction politique qui s'appelle phallus, qui est dominante, et que ceux qui parlent, rien que le fait qu'ils parlent, ça a des conséquences, même s'ils disent que non. Ça, c'est le trauma. C'est différent de la forclusion. La forclusion, c'est acting out parce que c'est décomposer l'objet. Mais l'objet, nous, on est forcément tous. On a tous affaire à cette structure de la psychose, parce que, vous voyez, même si on est dans le champ des névroses et des perversions, la bonne symbolisation entre les objets, l'objet de la phobie, l'objet pervers, le fétiche, l'attraction et la répulsion, là-dedans, on écrit au milieu, Lacan il relève entre les deux, dans le parcours de l'objet, vous avez l'objet transitionnel de Winnicott. Par exemple, l'objet transitionnel de Winnicott, c'est quoi? C'est une bonne écriture, vous voyez. On voit dire qu'un objet de phobie, c'est un mauvais objet transitionnel. C'est mauvais pourquoi? Parce que le sujet, il en souffre, il s'en plaint. C'est un symptôme, c'est un objet transitionnel mal foutu. Il n'est pas bien écrit. Alors, on en fait fétiche, ou on en fait fétiche, ça veut dire on va s'en servir pour essayer d'atteindre l'autre, dans sa subjectivité. Et de l'autre côté, vous avez la phobie, hein, c'est qu'on va au contraire souffrir de cet objet. Donc, dans le champ des psychoses, c'est fini, vous voyez. Le névrosé et le pervers, c'est vraiment, il vient voir l'analyste pour lui dire, voilà, pourquoi je ne suis pas un animal? Pourquoi je ne serais pas de la nature? Pourquoi je ne suis pas un animal? Pourquoi je ne suis pas une bête féroce? Ou pourquoi je ne vis pas au milieu d'une bête féroce? C'est là, quand il dit la névrose, c'est cette idée qu'on a tellement peur de tout qu'on reste chez soi, ça assure l'ordre public. Donc c'est pour ça qu'on pratique peu la psychanalyse, parce que tous les gens qui préfèrent enchaîner les autres, il y en a beaucoup, beaucoup qui aiment ça, enchaîner les autres, et puis il y en a beaucoup à enchaîner. Donc, névrose. Comme ça, ils restent chez eux, ils font pas chier, mais on a même inventé la télévision depuis, ils vont même plus au cinéma, au quartier latin, comme quand on était jeunes, vous savez. On sortait le vendredi soir pour aller au ciné-club et on discutait au bistrot après. Ça ne se fait même plus. Maintenant, vous avez les oreilles bouchées avec un téléphone portable qui vous rentre dans le nez, je ne sais pas où, un Walkman, et puis vous êtes chez vous. La phobie industrialisée, c'est génial, l'objet de la phobie. Bon. Est-ce que ça tempère vraiment l'angoisse? C'est pas sûr. Hein? Bon. Alors, vous avez le champ ici de la symbolisation. Faites votre ethnologie personnelle. Je viens de faire un texte de 30 pages sur la phobie. J'ai appelé ça le territoire de la phobie. Hein, c'est en espagnol. Normalement, c'est sur un site qui s'appelle Psicomundo. Et si vous lisez l'espagnol, peut-être qu'on pourrait le traduire. Okay. Psychomundo, c'est un sous-site du site qui s'appelle Forda, psychanalyse avec les enfants. Vous pouvez trouver ça sur Google en espagnol. Et bien, vous verrez que je raconte la phobie d'une manière, divertissante. Parce qu'il paraît qu'il y en a. Donc, j'ai appelé ça Lacan. C'est pas moi qui le dis, hein, je parle d'une citation de Lacan en télévision. Il dit, à l'entrée du territoire de la phobie, les psychanalystes reculent. Ils ont peur, hein, c'est dans la télévision. depuis Hans et sa phobie, on ne va plus sur le territoire de la phobie. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que couper une bande de Mobius. Il paraît que ça ne sert à rien. Donc on préfère se maintenir en dehors du cercle de feu. Bon. Donc pour finir, qu'est-ce que c'est que la psychose? C'est le sujet qui dit, bon, ben d'accord, on n'est pas des animaux, alors d'accord, mais pourquoi est-ce que je ne serais pas une machine? Vous voyez, vous avez des écouteurs dans les oreilles. Pourquoi je ne serais pas une machine? Eh bien, vous n'êtes pas un animal, mon pauvre madame, vous n'êtes pas une animale, pas du tout, vous n'êtes pas non plus une machine, vous êtes sujet du langage. Et sujet du langage, la conséquence, c'est tous ces emmerdements-là, mais c'est passionnant. Parce que on peut apprendre à lire, à entendre, à écouter ce qui est interdit, qui est entre les lits. C'est pas prohibé, c'est entre les lits. La jouissance, elle doit être interdite pour être atteinte sur l'échelle renversée du désir. Je suis pas en train de faire de l'hédonisme, moi je suis pas le gentil qui offrait, il a offrait, il t'appelle, sûrement. Hein, bon. Oui, moi je trouve ça très bien qu'il fasse des efforts pour éviter Lacan lui aussi. Bon, tout le monde, de toute façon, le problème c'est comment esquiver Lacan, comment éviter Lacan. Ça va durer quand même un moment. Hein. Bon, donc, vous savez, moi je ne suis pas du tout mon avis, c'est mon genre de dire aux gens si vous voulez l'éviter, évitez-le, l'évitez, continuez à l'éviter. Hein. J'ai rencontré Miller à Madrid, il était en train de regarder les Goyas, et il regardait que les Goyas officiels, la famille royale, et tout ça. Pourquoi il est si intéressé par le Goya officiel? Bon, d'accord, c'est un peu romantique, le Goya noir, là, qui est au sous-sol, hein, les monstres, vous voyez, qu'on a mis sur le séminaire 4, là. Hein, manger ses enfants, tout ça, c'est un peu effrayant. Puis, mais vous savez qu'il y a des Goyas bucoliques, ils sont au Prado, ils sont tout en haut. C'est la première fois que j'allais au Prado, je suis ravi. Je suis allé voir Velázquez. Et j'ai enfin vu, effectivement, que les personnages qui sont dans le miroir et le type qui est dans la porte, le chambellan du roi et de la reine, donc quand vous le voyez, Velázquez, c'est pas du tout comme en photo, c'est proche de vous. Il n'y a pas du tout cet effet de profondeur qu'il y a dans les photos. Dans les photos, on ne peut pas bien analyser la structure perspective parce que on a un effet photographique, justement, qui fait de la profondeur. Il faut y aller voir, pour voir que c'est là. C'est là le fait que, hein, le fait que c'est S1, S2, hein, je vais l'effacer. Hein, le tableau, lui, Velázquez, il n'est pas du tout à l'endroit où se trouve le type qui a peint le tableau. Donc il s'est dédoublé. Hein. C'est pour ça que Lacan dit que c'est le tableau des tableaux. Bon, alors j'arrête là pour ce soir. La semaine prochaine, je vais essayer d'avancer un cran plus que Borroméen est prêt. J'ai essayé d'avancer jusque là. Hein? Là et même peut-être là. Voilà. Alors à la semaine prochaine. Et je vous répète, ceux qui veulent donner une contribution, ils peuvent s'adresser à Marc.